Bonne soirée. Et cours! Wow!
Le hockey vous manque? Envie d'avoir des nouvelles de la LNH? C'est prolongation. Tout ce qui touche le hockey, de près ou de loin. Avec Martin McGuire et Danny Dubé. Au 98.5.
Bonne fin d'après-midi, bon samedi aujourd'hui, 28 novembre. C'est avec grand plaisir que Danny Dubé, que je vous présente tout de suite. Bonjour Danny.
Bonjour Martin.
C'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve, mesdames, messieurs, encore une fois pour cette autre édition de prolongation. Danny, même si, à prime abord, au premier regard, ça pourrait paraître un peu tranquille dans le monde du hockey, il y a quand même quelques nouvelles intéressantes, que ce soit avec notre équipe junior canadienne qui traverse des moments extrêmement difficiles. On va confiner, imaginez, là, on a suspendu le camp d'entraînement d'équipe Canada junior à Red Deer. Deux cas de COVID, on confine l'équipe, Danny, les entraîneurs, les coachs, le personnel. Tout le monde retourne dans les chambres d'hôtel pour 14 jours. Pas 4 jours, pas 5 jours, 14 jours. On va parler, bien sûr, à Hendrix Lapierre, qui est un des Québécois qui tente de se frayer un chemin dans l'alignement des 25. Puis on va également en jaser avec Stéphane Leroux. C'est vraiment une nouvelle qui a un peu bousculé le monde du hockey au cours des dernières 48 heures.
Oui, il y avait quand même un risque, hein, Martin. C'est quelque chose qu'on savait avant même de créer cette bulle qui était quand même assez ambitieuse. Là, on parlait de pratiquement 2 mois.
60 jours, oui.
Pratiquement, là, d'isolation complète de ce groupe de joueurs afin de réussir à préparer l'équipe nationale, à bâtir cette équipe nationale junior en fonction des championnats. Et évidemment, ben là, ça remet en perspective l'importance de comment c'est difficile de créer cette bulle, comment c'est difficile de la garder étanche et dans les circonstances encore plus parce que la deuxième vague est virulente, là, on le sait.
On tentera de savoir également si l'événement comme tel, le championnat mondial de hockey junior, ouais, peut être en danger un petit peu plus tard dans notre émission avec Hendrix Lapierre et Stéphane Leroux. Danny, dans la Ligue nationale, on a une histoire père et fils qui vient de naître à Winnipeg. Laurie le coach et Laurie le joueur. On va en parler bien sûr avec toi, mais aussi avec quelqu'un qui vit ça actuellement chez les professionnels dans l'organisation des Oilers d'Edmonton. Sylvain Rodrigue, coach des gardiens de but, et Olivier Rodrigue, gardien de but, vivent exactement la même affaire chez les professionnels dans l'organisation des Oilers, Danny. Je pense que ça va être un sujet très intéressant à aborder parce que ça s'est vu souvent chez les juniors, mais chez les professionnels, c'est une autre histoire.
Oui, c'est une situation intéressante. Sylvain, dans son cas, est basé en Californie, travaille dans tout le réseau de développement des Oilers Edmonton. Son fils Olivier joue actuellement en Europe. Il va nous parler un peu du parcours de son fils, puis aussi de ce que ça représente comme enjeu, là. Et il va nous parler aussi de ce qui se passe là-bas en Californie, ce qui est pas rien, là. Écoute, les situations sont quand même assez particulières. Dans tout le réseau de développement, aussi l'impact que la COVID a eu sur le réseau de développement des équipes professionnelles, c'est pas rien.
D'autres sujets également, on fera avec toi lors de ton commentaire le bilan. Shane Sherlock, après 6 ans à la tête du recrutement aux côtés de Trevor Timmons, a quitté l'organisation du Canadien pour celle des Panthers de la Floride. Et on va essayer de décortiquer avec toi comment ça s'est passé ces 6 ans-là avec Shane Sherlock à la tête du recrutement. Et aussi, bien sûr, le dossier Philippe Danault qui est revenu à l'avant-plan puisque cette semaine, il a reçu le trophée Jean Béliveau pour son implication dans la communauté. Et bien mérité, d'ailleurs, bien sûr, avec cette fondation, notamment Jasmin Roy, là, qui vient lutter contre l'intimidation chez les jeunes. Il est sorti des belles affaires concernant Philippe Danault qu'on va entendre dans les prochaines secondes. Mais avant, juste un petit retour là, sur l'actualité de la Ligue nationale. C'est pour parler entre les propriétaires et les joueurs. Alors qu'en surface, Danny, on croit que c'est silence radio. C'est vrai qu'en surface, c'est silence radio. Mais dans les coulisses, ça négocie et ça discute drôlement.
Est-ce toujours comme ça que ça se passe, Martin?
Ben, c'est souvent comme ça que ça se passe, mais est-ce que ça avance? Il y a des gens qui pensent que oui, Danny. Et selon ce que j'ai pu apprendre dans les dernières heures, j'ai consulté 4 sources différentes. Et ces 4 sources-là me disent à peu près la même affaire. Il va y avoir une entente, Mais l'ambition de M. Bettman de faire du 1er janvier son lancement de saison risque d'être compromise parce que de la façon dont vont les négociations, on se dirigerait beaucoup plus vers la première dizaine de jours de l'année 2021 que de la première journée. Et peut-être que ce petit compromis-là pourrait faire débloquer d'autres petits dossiers.
Ouais, mais écoute, c'est une on va le dire comme ça, là. C'est le premier mot l'expression qui me vient en tête. C'est une patate chaude parce que tout le monde a ses préoccupations. Puis là, ben, évidemment, c'est sûr que M. Bettman, lui, les prochains mois sont impératifs pour la suite des événements, c'est-à-dire la négociation du contrat. Et de diffusion des matchs avec un réseau américain.
Puis la solidité de la Ligue en général, Danny, aussi, là, la solidité de quelques marchés fragiles, là, ça aussi, c'est déterminant. Là.
Et même, à la limite, puis on aura l'occasion de développer là-dessus, c'est que la fragilité, elle est basée sur le fait qu'il y a des équipes qui auront de la difficulté à supporter la masse salariale des joueurs s'il n'y a pas d'entrée de revenus autre que les droits de télé. Alors, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait un vaccin, qu'on soit capable de mettre un peu de monde dans les gradins.
Les Américains vont déjà avoir ce vaccin, Danny. Ça va être approuvé là dans la première dizaine de jours du mois de décembre. Ça, c'était confirmé par le gouvernement américain. Ça va donner un bon coup de pouce aux équipes américaines de la Ligue nationale.
Exactement. Mais là, maintenant, comment on va faire pour contrôler tout ça, s'assurer que les gens qui commencent à retrouver leur train de vie normal ont été vaccinés, etc. Parce qu'il va y avoir quand même une liste de priorités pour l'administration du vaccin, ça c'est sûr.
Je termine avec deux, trois petites infos rapides. Là. Semble bien, Danny, que pour ce qui est de ce qu'on appelle l'escroc, ce que eux appellent l'escroc et ce que nous appelons la fiducie en bon français, on serait sur la voie d'avoir un terrain d'entente de ce côté-là et que c'est plutôt vers les revenus différés, les salaires différés qu'on se retournerait, mais bien évidemment avec un mécanisme qui pourrait satisfaire les joueurs et surtout offrir aux joueurs une garantie puis en même temps faire l'affaire des propriétaires. Puis il y a une autre information qui m'a été donnée également au cours des dernières heures par des sources, là, c'est qu'il y a des enjeux également au niveau de la télévision, Danny, parce que si on va plus tard en janvier, ça va être une saison de 48 matchs. Alors, 48 matchs, est-ce que c'est un bouquet intéressant pour les télédiffuseurs et est-ce que c'est un bouquet qui va permettre aux 31 propriétaires de retirer quelques sous de cette aventure? Ça aussi, c'est un enjeu.
Oui, et ça implique évidemment les joueurs 50-50 dans cette aventure-là. Et c'est la raison pour laquelle on négocie vraiment, là, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, le reste de l'argent à entrer pour les joueurs au prorata. Et les pertes, bon, on les repousse. Les versements de salaire, on repousse. On repousse tout ça quand on sera plus riche. C'est un peu ça l'idée, là.
Jouer maintenant et payer plus tard. C'est un peu ce qu'on va adopter dans la Ligue nationale. Et je dois vous dire, en terminant pour ce sujet-là...
C'est
ça la carte Bettman. C'est jouer maintenant et payer plus tard. Et je donnerai pas le nom de la personne qui m'a soufflé cette ligne. Alors... Mais si elle nous écoute, elle va se reconnaître. Et je termine simplement en vous disant que également là, il semble assez clair là, que les joueurs de la Ligue nationale vont s'arranger pour se rapporter à leur ville où ils jouent aux alentours du 1er décembre. Là, semble-t-il que c'est le mouvement qui est actuellement créé un petit peu partout dans le circuit Bettman. Bon, Danny, je voulais te parler de Philippe Dano parce que tu sais, on parcourt un peu la planète hockey puis on entend de plus en plus que Philippe Dano va jouer sa dernière année de contrat. Lorsqu'on lui a parlé cette semaine, il a été question, bien sûr, du fait que est-ce qu'il se résigne maintenant à jouer cette dernière année de contrat? Je lui posais la question et voici la réponse qu'il a donnée là-dessus.
Ah, écoute, moi, là, je vis jour le jour là-dedans. J'ai fait l'erreur de quand j'étais, il y a 2 ans, avant de signer mon contrat. Cette année-là était plus difficile, j'étais plus jeune, puis j'ai fait de l'erreur de, tu sais, comme j'étais comme différent. Puis moi, j'ai pas l'intention de changer ma game, puis je sais qui je suis, puis je sais qui je suis en train de devenir aussi. Donc, je suis en plein contrôle de mes moyens, puis comme je te dis, la décision me revient pas en bout de ligne. Puis c'est sûr que je veux rester à Montréal, mais je comprends la business aussi, puis je suis sûr que le meilleur va arriver.
Je sais qui je suis et je sais qui je suis en train de devenir. C'est porteur, ça, Danny, ce qu'il vient de dire là, pour lui, en tout cas, là.
Bon, c'est une belle preuve de maturité. C'est puissant comme propos parce que ce qu'il est en train de nous donner comme de nous envoyer comme message, c'est que je sais qui je suis. Ça veut dire je sais ce que j'apporte, ouais. Et je sais ce que je peux apporter. Et ça m'envoie le message. On parle de l'offensive là.
Ouais.
On est en train de parler de ce que j'ai pas toujours l'opportunité de faire. Mm-hmm. Puis ça, c'est, j'ai pas de contrôle là-dessus, mais moi, voilà. Je sais que je peux produire offensivement puis être un bon joueur fiable défensivement. Alors, ces joueurs-là ont une valeur inestimable parce que ils amènent, Martin, l'effet stabilisateur dans une organisation. Il y a aucun entraîneur, pas un coach qui va lever le nez sur un joueur qui fait ce que Philippe Danault fait.
C'est sûr.
Maintenant, il y a des directeurs généraux qui sont prêts à payer plus cher parce qu'ils n'en ont pas de ça dans leur alignement. Et chez le Canadien, bon, on prétend qu'on peut le faire sans lui après l'année en cours. Moi, je pense que c'est une joute de négociation. C'est une joute de négociation où Marc Bergevin doit certainement réfléchir à ses options. Et je suis convaincu que s'il a le choix entre un joueur de centre et un ailier, en termes de consolider sa position, oui, et d'en laisser partir un autre, il va choisir de garder le joueur de centre en premier. Ça, je suis convaincu de ça.
On a également demandé à Philippe Danault si, à quelque part, avec les contrats qui ont été donnés, Toffoli, Anderson, Gallagher, Petrie, qui étaient des cas prioritaires pour le Canadien, bien évidemment, si c'est pas à lui un peu vers qui on se tourne en disant, ben, on veut bien te garder, mais tu vas être obligé de prendre une petite baisse. Voici la réponse là-dessus.
Non, je pense pas qu'on me demande de faire sacrifice. Puis j'ai fait un sacrifice le dernier contrat, donc je vais rester vraiment faire tout ça, mais je vais laisser ça à mes agents puis à Marc, puis on va voir. Comme j'ai dit, il me reste un an de contrat avec le Canadien, puis j'ai l'intention de l'honorer jusqu'à la fin.
Danny, vraiment, le nœud du problème avec Philippe Danault, c'est probablement l'argent, parce que on trouverait le moyen de s'entendre au niveau des années. À 27 ans, il n'y a pas un gros risque au niveau des années. C'est peut-être l'argent qui est le plus gros nœud dans cette affaire-là.
Oui, c'est sûr que c'est l'argent, Martin. Et si on veut garder Philippe Danault, ben, lui, Philippe Danault, il a un chiffre en tête et on, oui, dit qu'il vaut pas ce chiffre-là. Par contre, à l'inverse, on a donné beaucoup d'argent à des joueurs, des nouveaux, et à l'intérieur de la Ligue, partout, on dit que ces joueurs-là valaient pas l'argent que le Canadien leur a donné.
Donc, oui, parce là, que maintenant, il y a plusieurs agents qui, lorsqu'ils discutent pour leurs clients avec des équipes, ils parlent du cas Josh Anderson à Montréal. Ça, c'est une réalité,
oui,
là.
Ben oui, et puis à 5,5, Anderson est grassement payé. Quand on, parce qu'il faut regarder le type de joueur qu'il est, mm-hmm, faisait vraiment... Je pense que ça titillait l'organisation de s'entendre à long terme avec, parce que ce type de joueur, on n'en a pas chez le Canadien.
C'est ça. On comprend bien pourquoi Bergevin l'a fait. C'est ça qu'on veut dire.
On comprend ça.
La situation. Mais il y a comme un précédent, parce que si on dit que Jean-Gabriel Pageau à 5 millions pour 6 ans est un cas type, est devenu un cas type, moi je pense que Josh Anderson, il a été créé comme cas type avec ce que lui a accordé Marc Bergevin. Et puis ça, ben, le Canadien est un peu pris avec cette affaire-là comme une patate chaude, là.
Absolument. C'est sûr que c'est un dossier qui est difficile à... C'est difficile de trancher. Il faut prendre des décisions. Et c'est ça le écoute, c'est l'adage de la direction, du leadership, c'est de, oui, de prendre des décisions. Alors moi, tu sais, bon, c'est lui qui est le patron. Marc Bergevin, c'est lui qui va prendre cette décision-là.
Absolument.
Je continue de croire que la valeur ajoutée, c'est par rapport à la position d'un joueur. Moi, je continue de croire qu'un joueur de centre, de façon générale, vaut plus cher qu'un ailier. À moins que l'ailier soit une vedette incroyable. Si tu as à choisir entre les deux, le joueur de centre, c'est un joueur qui va t'amener beaucoup. Par contre, il faut que le joueur de centre soit assez bon pour t'amener ça. Là, on est dans tout ce débat. Et ironiquement, je pense que si on ne s'entend pas avec Philippe Danault, il va recevoir une offre à la hauteur de ses attentes.
Ah, ça, c'est clair.
Qui va provenir d'une autre organisation, j'en suis convaincu, Martin.
Il y a deux types d'organisations, Danny, pour appuyer sur ce que tu dis là. Une équipe qui pourrait par exemple là, avoir un excellent numéro un, mais avoir besoin d'un solide numéro deux pour pouvoir passer à travers les séries puis se rendre à un éventuel championnat. L'autre type d'équipe, c'est une équipe en devenir qui est en construction, qui a potentiellement de très bons jeunes joueurs de centre, mais qui aurait besoin d'un Philippe Danault pour venir consolider tout ça. Puis ce genre d'équipe-là, là, je parle d'équipes qui ont de la place sur la masse salariale et tout ça, là, des Columbus de ce monde, des Détroit de ce monde, ce sont des équipes là, qui pourraient consentir aux demandes de Philippe Dano puis tirer le meilleur de ce qu'il est capable de présenter. Mais quoi qu'il en soit, Danny, l'important, c'est qu'ils s'entendent avec le Canadien pour les deux parties. D'ailleurs, ce qui a peut-être mis un peu, j'oserais pas dire le feu aux poudres, mais ce qui a peut-être éloigné les deux parties, c'est lorsque Philippe Dano a mentionné que, quand on lui posait la question il y a quelques semaines de ça, si tu dois te contenter d'un rôle purement défensif à Montréal, est-ce que tu vas avoir envie de rester à long terme? Ben lui, il a dit non. C'est pour un rôle strictement défensif, non. Évidemment, il y a peut-être eu, excusez l'expression, un backlash par rapport à cette déclaration-là. Philippe Dano a senti le besoin de faire le point là-dessus. On va l'écouter.
Ce que j'avais dit, c'est pas que je voulais être premier centre puis de man comme tout le monde pouvait penser ou pouvait lire entre les lignes. C'était vraiment, moi, j'avais dit, je me disais dans ma tête, le jour où je vais accepter que je vais avoir un rôle défensif, c'est le jour que je vais accepter d'arrêter de m'améliorer. Puis moi, je suis pas rendu là du tout à ma carrière. Je veux m'améliorer chaque année. Puis je sais que je suis bon défensivement, mais je veux m'améliorer aussi offensivement. Puis je sais que je suis capable d'en donner encore plus.
Je pense que ça, c'est très bien dit, Danny, de la part de Dano. Puis je pense qu'il a bien fait de le clarifier. Parce que quand une situation contractuelle comme celle qu'il vit touche un Québécois à Montréal, la fibre émotive arrive toujours un peu plus, puis les mots sont analysés. Il avait peut-être pas très bien fait dans la formulation de phrase il y a quelques semaines. Là, je pense qu'il a replacé les choses.
Tu sais, Martin, je pense aussi que il aurait pu simplement répondre à la question en disant des joueurs unidimensionnels défensifs dans la Ligue nationale, ça n'existe plus.
C'est vrai.
Ça n'existe plus. Si tu es un joueur défensif, joueur de centre, tu joues sur la 4.
Oui, et puis dans certaines équipes, tu n'as même pas de place pour jouer sur la quatrième ligne.
Mais non. Donc, lorsqu'il dit, moi, je pense que je peux produire offensivement, je veux continuer de m'améliorer, je veux continuer de contribuer toujours plus, c'est excellent, c'est une très bonne réponse. Mais je pense que le sous-entendu de la question, je sais pas qui a posé la question, comment ça a été abordé, puis je suis pas en train de faire le procès de celui ou de celle qui a posé la question, mais ce que je veux dire, c'est que moi, ma réponse, ça aurait été, ça n'existe plus ces joueurs-là. Comme non, des batailleurs, ça n'existe plus. Comme des joueurs,
exactement.
Tout le monde doit contribuer. Tu peux pas avoir un joueur unidimensionnel dans la Ligue nationale. C'est trop difficile. Tu veux avoir des joueurs qui sont capables de contribuer de façon significative. Puis, bon, la hauteur de ta contribution offensive, là, c'est une question de talent. Puis après, c'est une question de talent versus temps de glace. Puis on le sait, il y a des joueurs qui ont beaucoup, beaucoup de temps de glace chez le Canadien, en avantage numérique dans d'autres situations. Puis c'est pas nécessairement les joueurs les plus prolifiques offensivement non plus, là.
Danny, il y a un autre facteur qui est important dans ce dossier-là, et pour moi, il est très important, c'est le facteur Québec, le facteur québécois. Et je pense que Philippe Dano a encore ajouté une petite couche sur ce facteur-là. Puis je pense pas qu'il s'en est servi de façon maladroite, là, mais il a rappelé que, comme Québécois, il est toujours extrêmement fier de mettre le chandail bleu, blanc, rouge sur son dos, de sortir du vestiaire puis d'aller sur la glace pour défendre les couleurs du Canadien.
Pour moi, le Canadien, c'est... depuis que jeune, j'y suis. Donc, écoute, c'est le Canadien, j'ai toujours été fier. À chaque soir, quand je mets le chandail, je donne mon 100%. Puis, pas d'excuses. Puis, écoute, j'essaie de donner tout le plus que je peux pour mes teammates puis pour moi-même, pour que je sois fier de moi, pour qu'on soit fier de moi aussi. Donc, c'est sûr que c'est une fierté canadienne.
Ça a été comme ça, Danny, depuis des décennies. Les joueurs québécois, pour la plupart, qui ont porté ce chandail-là, en portent les traces pour le reste de leur vie. Et c'est positif en bout de ligne, là.
Martin, je veux juste ramener la... Tu sais, quand il y a eu le fameux reset de Marc Bergevin, oui, qui a parlé des problèmes d'attitude de son organisation, puis que l'attitude, ça allait être mis en avant-plan, là. Ben, là, il y a un joueur dans son organisation qui, je pense, fait preuve de très bonne attitude, d'éthique de travail, etc. Il est pas parfait, Philippe Dano, là. Il y a des facettes
non,
dans son
non, parce
jeu
que
à améliorer.
Ils ont le droit de pas l'aimer complètement. Ils ont le droit de pas aimer certaines choses de son jeu, puis c'est probablement le cas, là.
Oui, effectivement. Mais ceci étant, il reste que les joueurs que tu veux garder dans ton entourage, ce que tu veux consolider, c'est basé sur justement le comportement et les attitudes recherchées, parce que c'est ça l'ADN de ton organisation.
Puis c'est moi, clair.
Honnêtement, j'essaye pas de pousser sur Philippe Danault, je veux juste dire, tout ce que tu as parlé par rapport à l'aspect local, c'est un bonus. C'est vraiment un bonus. Je pense pas qu'on donne un contrat à long terme à un joueur parce qu'il est engagé dans la communauté.
Non.
On lui donne un contrat ou on lui consent ce contrat-là de par ses performances sur la patinoire et son niveau de contribution au sein d'une organisation. Et ensuite, bon, le reste, c'est de l'extra. Mais dans le cas de Philippe Danault, je trouve que c'est un package qui est quand même intéressant.
C'est sûr. Et
qui va être difficile à trouver. En tout cas, certainement pas dans l'organisation à court terme, là, parce qu'on le sait, les joueurs du Québec, ils en repêchent pas beaucoup. Puis, donc, là, il y en a un. Et il y en a un, de surcroît, qui répond aux critères qu'on avait mis en place au moment où on a voulu rebâtir l'équipe autour de nouveaux visages. Et il en faisait partie.
Et qu'ils ont eu pour une chanson. Danny, avant de passer à la pause et à notre prochain invité, Sylvain Rodrigue, pour ne pas le nommer, je veux qu'on jase un peu des propos, qu'on revienne très brièvement sur les propos de Kirk Muller, l'entraîneur adjoint du Canadien de Montréal, l'adjoint à Claude Julien, s'est adressé aux médias et on a discuté de quelques sujets. Entre autres, l'addition de Toffoli et de Anderson qui amène et qui amènera probablement, du moins, ils l'espèrent tous, un élément important au jeu de puissance, on l'écoute.
You know, Anderson, Toffoli, these guys, they got great hands. They got the scoring ability to be in the areas. You know, I looked at their clips, from their previous teams, and you can see where they're adaptable, where they can play on the half walls. They can fit in the middle. Goal line type presence. You know, I think it gives us a really good look. They've had success in those areas, and I think those are the areas that would help us because, you know, as you know, we got some good guys on the perimeter that, you know, with Webby and Petey that, can establish shots from the outside, but these guys are the guys that are willing to play in the inside and make, you know, plays in tight end areas. And these guys give us that type of element and look that we can make some adjustments.
Alors, PD, c'est Petrie et Webby, c'est Weber. Vous aurez compris, mesdames, messieurs, c'est toujours important de le préciser, Danny, quand les coachs utilisent les surnoms des joueurs. Après avoir dit ça, ce que Muller dit essentiellement, là, il dit que Anderson et Toffoli sont des gars qui ont de bonnes mains pour jouer dans les petits espaces, autour du filet, près de la ligne des buts. Et cet élément-là va amener quelque chose que le Canadien n'a pas beaucoup. En fait, la seule chose qu'ils ont dans ce département-là, ça s'appelle Gallagher. Et l'autre chose qu'il a dit, c'est que probablement que Petrie et Weber, qui initient beaucoup de choses avec leur lancer et leur mouvement de rondelle en haut de zone, c'est des gars sur lesquels on va moins tricher si Toffoli et Anderson s'avèrent être des gars utiles dans le département que vient de décrire Kirk Muller.
Ben, quand tu mets de la pression sur les défenseurs, tu t'éloignes de l'enclave, donc tu aères la structure défensive et qu'il y a plus de place. Et s'il y a des joueurs dangereux dans cette zone-là, ben là, ça devient beaucoup plus difficile de réagir sur les retours de lancer, déviations, etc. Et là, ce qu'il dit, these two guys are willing to play inside.
Oui, à l'intérieur des cercles.
C'est sur la petite glace, à l'intérieur
c'est
des
ça.
Points de mise en jeu. C'est ça. Et ça, c'est très important de le mentionner. C'est là où le Canadien a eu beaucoup de difficultés à établir sa présence sur l'avantage numérique.
Et je dis pas pour Toffoli, mais c'est précisément, dis-je bien là, que Josh Anderson, son année de 27 buts, là, c'est là qu'il les a marqués, ses buts. Là. C'est vraiment à l'intérieur, comme on dit, de la cuisine. Autre point qu'on a abordé avec Kirk Muller cette semaine, on a eu un très bel échange d'ailleurs avec Kirk Muller. Je disais à Jérémy Rainville, faire un point de presse avec lui, c'est comme échanger au tennis avec un bon joueur. Tu sais, la balle revient toujours à la bonne place, puis tu peux faire des échanges, puis envoyer toutes sortes de coups. Puis la balle va revenir. Muller a dit quelque chose d'intéressant, Danny, sur une chose. Il a dit on doit être meilleur devant notre filet et devant le filet adverse offensivement. Puis il a dit également on doit avoir une meilleure assurance sur notre propre patinoire à domicile. On l'écoute.
That goes with a little bit of swagger. You've seen it over the years, like the teams that do well in Montreal. It's always usually a really tough place to come in and win, and we got to get that swagger back there, you know, and feel good about playing at home. We got great fans and we got passionate fans, and we got to take that to our advantage rather than get, you know, a little uptight on you know, the situations like that. So, and that's correctable, and that's something we gotta, you know, focus on.
Alors, être maître chez soi, Danny, c'est un peu ça. Le Canadien, pour faire les séries, doit avoir de solides performances à domicile, c'est-à-dire aller en chercher pas loin de 7 sur 10.
Oui, mais ça va toujours revenir à la même chose, Martin. Les débuts de match du Canadien à domicile, c'est extrêmement important si on veut avoir du succès.
Dans quelques instants, un peu plus tard à l'émission avec toi, on fera le bilan des années Shane Sherlock à la tête du recrutement du Canadien qui a travaillé de 2014 à 2020 au niveau des séances de sélection avec toi, bien sûr. Mais après ces messages, nous allons nous retourner vers une histoire père et fils chez les professionnels. L'entraîneur, un des entraîneurs au développement des gardiens de but chez les Oilers d'Edmonton, Sylvain Rodrigue, sera avec nous.
Vous écoutez Prolongation, Prolongation avec Martin McGuire et Danny Dubé au 98.5.
Nous sommes de retour à Prolongation. Dans quelques minutes, on ira dans la bulle qui n'est plus une bulle, mais qui est devenue une situation d'isolement complet, Danny. On ira à Red Deer retrouver Hendrix Lapierre de notre équipe nationale junior qui se préparait, qui va continuer de se préparer, mais ils vont le faire dans leur chambre d'hôtel, malheureusement, pour les 14 prochains jours. Il y a Stéphane Leroux également qui réagira là-dessus. En attendant, notre prochain invité a joué au hockey dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il a gardé les buts pour les Saguenayens et les Foreurs dans les années 90. Il a également été entraîneur des gardiens de but avec les Saguenayens au début des années 2000. Il poursuit maintenant sa carrière avec l'équipe de Bakersfield dans l'organisation des Oilers d'Edmonton, responsable de l'entraînement et du développement des gardiens. On a le plaisir d'accueillir Sylvain Rodrigue qui nous parle justement de la Californie. Bonjour Sylvain.
Bonjour les gars.
Merci de répondre à notre invitation positivement. Sylvain, d'abord, évidemment, par les temps qui courent, là, quand on est responsable de l'entraînement et du développement des gardiens dans une organisation de la Ligue nationale et qu'on attend pour savoir si les activités vont reprendre ou non, j'imagine que, à part s'abreuver de vidéos et d'étudier vos gardiens de but et ceux des adversaires, il n'y a pas beaucoup de choses à faire par les temps qui courent. Est-ce que je me trompe?
Tu viens complètement de résumer notre travail, Martin. C'est exactement ce qui se passe. On n'a pas beaucoup d'options, mais tout ce qu'on peut faire, c'est faire un petit peu le travail sur le vidéo. Durant l'été, on avait un petit projet, moi puis Dustin Schwartz, qui est mon collègue à Edmonton. Puis au lieu de se rencontrer, d'être sur place physiquement comme à chaque été, mais on a fait ça sur mode vidéo avec nos gardiens. Donc, on faisait des vidéoconférences. Puis on essayait de retoucher un petit peu à nos points clés. Puis c'est la seule façon qu'on peut dire qu'on a eu un petit peu de coaching avec nos jeunes, avec nos prospects dans les derniers mois. On espérait dans ce temps-là que ça recommence en septembre, en octobre. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Hein? C'est la pandémie, c'est planétaire, c'est à travers le monde. Puis on essaye de s'ajuster puis de suivre. Puis surtout d'être prêt quand ça va commencer. Parce que quand ça va commencer rapidement.
Ouais, Sylvain, comment vous travaillez avec les joueurs, puis quel impact ça a eu sur le développement des joueurs, tu crois, à travers tout le réseau de développement, là, les équipes dans les rangs mineurs, par rapport aux équipes professionnelles, là, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs. Quel impact ça a, la pandémie, sur le développement de ces joueurs-là?
Ben évidemment, un petit peu comme à Montréal, avec le Rocket de Laval, ben, on n'a pas de doigt de toucher à la glace. On n'est pas là. On n'a aucun joueur qui est en ville ici. Donc, tout le monde est à la maison. Ils s'entraînent, ils sont par eux autres même. On essaie de garder le contact avec eux autres à l'occasion. De vraiment arriver avec... vous savez que lorsque la rondelle va tomber, ça va aller vite. Donc, ils se doivent d'être professionnels hein, dans tous les sens du mot pour réussir à arriver le plus près possible. Parce que ça va être très rapide, ça va être un court camp d'entraînement. Puis au niveau professionnel, tu n'as pas le choix, hein, c'est la performance. Donc, tu veux performer, tu veux être là, tu veux continuer à te développer, prendre les moyens du bord. On a un gardien qui est à Toronto, on a un gardien qui est en Alberta, on a un autre gardien qui est dans le KHL, on a un autre gardien qui est en Autriche. Donc, on a seulement deux qui réussissent à jouer des matchs qui sont en mode saison. puis on a deux qui sont complètement arrêtés depuis le mois de mars. Donc, par eux autres, ensuite, c'est de se trouver de la glace. Il faut en faire avec des coachs privés pour la plupart du temps, mais c'est d'autres gars comme moi qui travaillent avec certaines autres organisations dans la Ligue nationale, donc qui ont des contacts, qui ont travaillé avec des gars de qualité. Puis comme j'ai dit, c'est d'être prêt pour quand la rondelle va tomber dans les prochaines semaines, en espérant, ou les prochains mois.
Comment ça se passe pour Olivier? On sait que récemment dans la Ligue nationale, Dave Laurie a été engagé par les Jets. Il va donc diriger son fils. Ça, c'est une affaire qui pourrait arriver éventuellement. Donc, comment tu vois cette situation-là chez les professionnels?
Ben, on avait discuté un petit peu, Danny, dans les dernières semaines, puis je pense que ça va être, un, avec l'honnêteté. Tu peux pas commencer à jouer au père, il y a un lien, puis tout ça. Donc, je pense qu'il faut que tu sois honnête. Et il faut pas que tu changes ta personnalité. Ça va être c'est sûr que ça va être une adaptation. Puis là, on a déjà eu deux camps d'entraînement, si on peut dire, qu'on a été ensemble, mais tu sais, je continue à faire mes choses, Olivier fait ses choses, il est avec les joueurs, puis il y a une séparation, puis quand on se croise dans le couloir, là, c'est pas « salut, père
», salut, salut, coach
», c'est différent, mais je pense que pour lui aussi, c'est ce qu'il veut, hein, il y a vraiment une séparation, puis... À la patinoire, ben Dave Laurie que j'ai connu quand j'avais 19 ans, j'avais été au camp des Blues de Saint-Louis. C'est un bon monsieur, puis il a sa famille, puis c'est pas à cause de Dave Laurie que son garçon il joue avec les Jets. Là. Il est déjà là depuis déjà quelques temps. Donc c'est d'être honnête. Puis les joueurs, tu sais, vous le savez, vous les côtoyez, puis tout ça, sont extrêmement intelligents, sont capables de lire une personne dans le vie. Donc, si tu essaies de faire des choses par en arrière, désolé, mais tu perds ta crédibilité directement avec eux autres. Puis, un coup que tu n'as plus de crédibilité, ben, tu ne peux plus coacher au niveau professionnel. Hein? C'est fini.
Sylvain, est-ce que toi et ton fils allez avoir un code? Est-ce qu'à un moment donné, vous allez devoir vous asseoir puis avoir votre propre code? Dans le genre, on parle pas de ça entre telle heure et telle heure. On aborde comme ça, on n'aborde pas comme ça. Est-ce que vous avez déjà échangé là-dessus, Sylvain?
Oui, on a jasé. Puis, ce qui va arriver, c'est qu'à la patinoire, ben là, c'est devenu son travail maintenant. Moi, j'ai mon travail depuis des années. Donc, je vais continuer de faire mon travail puis d'être professionnel dans tout ça. Hein? Puis de toute façon, de mon côté, tu sais, je suis pas l'entraîneur-chef. Donc, je suis pas nécessairement décisionnel sur une décision qui peut arriver par rapport à un temps de jeu ou un départ ou quoi que ce soit. C'est un consensus. Notre coaching staff, on se rencontre quotidiennement, puis on discute de tout par rapport à notre équipe, puis de l'alignement partant aussi en soirée, puis c'est pas seulement un qui décide. Oui, c'est pas vrai ce que je dis. L'entraîneur-chef, il décide. Mais tiens, on a des meetings entre nous autres, puis on le pour et le contre, puis par rapport à la situation, puis quand jouer tel gardien, puis OK, on va jouer trois matchs en trois soirs, ben là, hop, OK, c'est quoi notre plan de match pour cette séquence-là? Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'interactions entre notre coaching staff. Moi, de mon côté, ben ça va être de le voir comme un gardien régulier de notre organisation. C'est sûr qu'il va y avoir des situations qui vont être bizarres à l'occasion, puis tout ça. Mais une fois, ça c'est sûr, puis on se l'était promis, Martin, pour revenir à ta question, c'était lorsqu'on va partir de la patinoire, on peut pas traîner le hockey 24 heures sur 24 puis sentir que tu es en train de travailler 24 sur 24 parce que ça va être un burn-out. Là, on peut pas fonctionner comme ça.
Il faut avoir une famille.
Une relation père-fils, là, puis comme avec mon autre garçon de 16 ans ici, ben on est une famille. Fait, d'accord à la patinoire, on est au centre-ville, on fait notre job, mais quand on revient à la maison, ben on est à la maison en fait. Il va falloir être capable de couper les ponts puis de pas parler de hockey tout le temps, parce que sinon ça va sûrement devenir invivable. Un pour ma femme, ça. Puis deuxièmement, ben pour Olivier puis pour moi aussi. Il faut que ça reste un milieu sain. Puis c'est là qu'il va falloir trouver le milieu dans tout ça, puis qu'il soit confortable. Il va falloir qu'il soit confortable là-dedans. Tu sais, c'est lui, c'est pas mon show à moi. Ouais. Moi, mon show, c'est ma job, puis c'est de travailler avec les gardiens. Mais la personne qui performe, ben c'est lui. Puis c'est lui qui va faire son chemin. Puis si je peux l'aider, je vais l'aider, oui. Mais une affaire qui est sûre, ça va être d'une façon honnête. professionnel. Puis s'il y a un joué en haut, ben il se donnera une bonne tape dans le dos plus tard parce que je peux l'aider, mais je peux pas tricher.
Là-dessus, Sylvain, tu restes avec nous. Danny, on va s'arrêter pour quelques messages. Et au retour, on poursuit la conversation en compagnie de Sylvain Rodrigue, responsable de l'entraînement et du développement des gardiens chez les Oilers d'Edmonton.
Vous écoutez Prolongation avec Martin McGuire et Danny Dubé au 98.5.
On poursuit, Danny, avec notre invité, Sylvain Rodrigue, qu'on a rejoint en Californie, à Bakersfield, là où se trouve le club-école des Oilers d'Edmonton. Sylvain est responsable du développement et de l'entraînement des gardiens de but. Il y a quelque chose qui m'intrigue, parce que la relation entre un coach des gardiens et ses gardiens, souvent, il y a une proximité. T'sais, moi, j'ai toujours pensé qu'un coach des goalers, comme on le dit en québécois, là, c'est un peu comme l'entraîneur des lanceurs au baseball. Il se développe quelque chose. Puis les entraîneurs de gardiens reçoivent souvent les confidences des gardiens de but, puis des affaires que tu répètes pas à l'entraîneur-chef parce que ça doit rester entre ton joueur et toi. Est-ce que ça complique encore plus quand ces situations-là vont se présenter avec Olivier?
Ben, je te dirais que oui, c'est totalement raison sur le côté un peu plus proche. C'est normal, on fait du 1 pour 2, 1 pour 3. C'est une grosse saison, tu as 3 gardiens autour de toi quotidiennement. L'entraîneur qui s'occupe des défenseurs, ben, il y en a 8, il y en a 9 à gérer. Donc, c'est pas la même proximité. Puis on est un peu dans un bon rapport, les gardiens. Hein. C'est connu par tout le monde. Mais je suis 100% d'accord avec toi. C'est plus proche. La relation goalie-coach-gardien, c'est toujours plus intense un petit peu que le coach et défenseur ou le gars qui s'occupe du power play ou des forwards ou quoi que ce soit. Mm-hmm. C'est comme ça. Parce qu'on est plus en contact direct avec deux êtres humains quotidiennement, puis tu sais, c'est spécifique à eux. La partie où qui va avoir l'adaptation ou la transition, ça va être jusqu'où Oli va se confier, puis ce que je peux dire et ce que je peux pas dire à l'entraîneur-chef. Puis ma base, là, ma fondation, ça va être si c'est par exemple l'autre gardien de l'organisation, est-ce que je le dirais ou je le dis pas? Donc, c'est là, je pense qu'il va falloir que je trouve ma ligne pour savoir quoi garder pour moi, puis qu'est-ce qui est pas non plus à dire de l'autre côté. Mais pour revenir à Olivier, dans tout le temps du hockey mineur, junior majeur, il a jamais été quelqu'un qui a raconté ce qui se passait à l'intérieur de l'équipe.
Ouais.
Puis j'ai jamais essayé non plus d'essayer de tirer les verres du nez puis de savoir ce qui se passe. Puis là, hey, tel coach ou Steve Hartley, t'as-tu dit ça? Non, c'est ta game, c'est ta business. Il faut que tu te développes parce que si on fait tout pour eux autres, ben ils n'auront pas cette autonomie-là puis faire face à l'adversité quand ça va devenir dur. Parce que c'est pas une partie de plaisir. Hein, vous le savez comme moi, c'est des hauts et des bas. Puis souvent, c'est pas facile. Puis tu reçois un bon coup sur la boule, ben t'es-tu capable de t'en mettre ou t'es pas capable ou tu vas rester 2 semaines là-dessus? Reste 2 semaines, mais ça se peut que le train et le bateau soient passés, puis t'es capable de finir ça à la Martin Brodeur. T'as eu une bonne performance, t'as eu une mauvaise performance, mais là de côté, puis demain ça recommence encore. Ça, c'est difficile, mais c'est l'expérience, puis c'est l'autonomie, la responsabilité, puis pas se mettre une pression inutile sur le dos qui permet aux gardiens d'être capable de jouer chaque soir. C'est là que c'est dur.
En terminant, Sylvain, je veux te demander comment ça se passe pour Olivier, parce que je sais qu'il est en Europe, puis comment tu réussis justement à travailler avec lui, puis à distance? C'est quand même un dossier intéressant, là.
Ouais, ben c'est comme je disais au début, on fait ce qu'on peut avec la technologie. Donc on a quelqu'un à Edmonton qui s'occupe de toute ses séquences vidéo ou quoi que ce soit. Donc il nous découpe les matchs en Europe et il visionne les matchs. Il nous découpe ça aussitôt qu'il y a quelque chose dans
zone défensive. Il est en Autriche actuellement, c'est ça?
Ouais, il est en Autriche, il est à Graz. Puis finalement, ben c'est ce qui se passe là. Je reçois ça. Ensuite, je peux le transférer carrément dans mon ordinateur, dans notre programme qu'on utilise pour travailler avec nos joueurs lorsqu'on est carrément ensemble ici dans une saison régulière. Puis à partir de là, ben ce que je vois, on est capable de se faire une fois par semaine, une séance vidéo. puis
Faites du Zoom, vous aussi.
Ben ouais, on n'a pas le choix. On est rendu en 2020. Ça
prenait la pandémie.
On se fait une séance Zoom. Je partage mon écran avec lui, donc il voit directement ce que je vois sur mon ordinateur. Je suis capable d'arrêter les séquences où je veux, puis de tracer telle chose qu'il aurait dû faire ou pas faire. Puis à partir de là, ben c'est la seule façon qu'on peut faire quelque chose. Notre autre gardien qui est dans la KHL, ben c'est un petit peu la même chose. Ouais. Et lui, il a la barrière de langue. Ça, c'est une autre affaire qui est encore. Donc,
mais comment va ton russe?
Il va très bien. Google Translate, il va très très bien. Mais ce qu'on a besoin, c'est de s'ajuster. On est des enseignants, puis c'est ce qu'on avait appris à l'université, donc. S'ajuster rapidement, puis aussitôt qu'il arrive quelque chose, ben on fait les choses nécessaires, puis à partir de là, ben c'est de la façon qu'on peut travailler avec eux autres à distance.
Sylvain, en quelques secondes, puis avant de te laisser, tu sais, je pense que tout le monde comprend là, que spectateur ou pas de spectateur, Ligue américaine, Ligue nationale, c'est important de jouer pour que le sport reste en vie. Tu vis en Californie depuis déjà un certain temps, le hockey t'a amené là. Est-ce que tu conçois, toi aussi, que c'est important que le hockey doit trouver une façon de rester en vie, même s'il n'y a pas de spectateurs dans les gradins, dans un endroit comme la Californie, c'est encore plus important que le hockey reste là?
100% d'accord. Ils ont pas, je crois personnellement, ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas se permettre de laisser 8 équipes, 3 de la Ligue nationale, 5 de la Ligue américaine, sans présenter de hockey dans l'État ici de la Californie, parce qu'ils ont fait des progrès immenses au cours des dernières années. C'est rendu un sport qui est populaire et c'est non pas seulement le baseball puis le football. Oui, ces sports-là sont un peu intouchables, mais le hockey, il a pris une part. Il y a des fans des Kings, même ici à Bakersfield, des fois, on voit derrière les voitures, puis ils ont des autocollants des Kings, puis des Ducks, puis tout ça. Mais je crois pas que la Ligue nationale peut se permettre de laisser aller une saison complète sans présenter de hockey, parce que probablement qu'ils perdraient une bonne part de marché. Puis ce qui a été fait, là, le débroussaillage des dernières années, ça coûterait des millions et des millions. Donc oui, peut-être c'est une année qui est pas facile financièrement, puis on sait pas, là, chaque semaine ça change ici. Mais si tu regardes sur le long terme, je crois que la Ligue nationale vont y aller, puis ils peuvent pas laisser aller parce qu'ils vont perdre cette part de marché-là. Puis aux États-Unis, les contrats télé, tout ça, c'est quelque chose qui serait vraiment difficile puis négatif pour la Ligue nationale.
Sylvain Rodrigue, merci beaucoup. Ça a été trop court, alors on se dit peut-être certainement une prochaine fois. On va te souhaiter une excellente continuité avec ton travail chez les Oilers d'Edmonton. Au revoir, Sylvain.
Ben, merci beaucoup, les gars. Au revoir.
Là-dessus, mesdames, messieurs, on va s'arrêter quelques instants. Les informations vous provenant de notre salle des nouvelles à Cogeco seront présentées dans quelques instants. Danny, dans les prochaines minutes, ce qu'on va faire, on va aller à Red Deer pour parler de notre équipe junior canadienne qui non seulement est confinée, mais seront peut-être même cloîtrés, joueurs et entraîneurs, dans leur chambre d'hôtel pour 14 jours. On va parler de l'impact que ça aura sur la préparation de l'équipe. L'air Shane Sherla, qui quitte le Canadien pour les Pens, pour aller diriger le recrutement là-bas. Tu vas faire une analyse exhaustive des 6 années de repêchage que le Canadien a fait avec lui à bord. Restez là, mesdames, messieurs. Prolongation, ça se poursuit dans un moment.